cinéma. Ce mois-ci, en ce mois d'août 2021, nous allons voyager aussi bien en France, avec notamment un excellent premier long métrage, mais aussi au Brésil, mais en Iran, avec un film qu'on a longtemps cru perdu, mais aussi en Espagne, où nous allons aller à la rencontre de sorcières. Mais tout de suite, un petit peu de musique. Dans la banlieue parisienne, plutôt du côté d'Aubervilliers, avec De bas étage est un film réalisé par Yacine Knia. Yacine Knia est un jeune réalisateur qui a déjà 3 courts-métrages à son actif, dont 2 d'entre eux ont déjà remporté plusieurs prix dans divers festivals. Et le 4 août sort son premier long-métrage, donc De bas étage, qui raconte l'histoire de Mehdi, un jeune homme d'une trentaine d'années, qui avec ses 2 amis perce des coffres dans des zones industrielles. Seulement le butin se fait de plus en plus maigre à chaque fois. Et alors que ses amis lui proposent des perspectives professionnelles, Mehdi ne se montre pas forcément plus enthousiaste que ça. Il n'a qu'une idée en tête, c'est reconquérir Sarah, la mère de son petit garçon qu'il adore. De bas étage offre un portrait sensible, tout en nuances, d'un personnage pourtant peu sympathique. Un jeune homme solitaire et égoïste et qui se montre des plus maladroits avec ses proches dans ses tentatives de renouer des relations, dans ses tentatives d'acquérir une certaine indépendance. Et Yacine Knia réussit à éviter l'écueil du film social complaisant et larmoyant en signant une œuvre plutôt âpre et réaliste, dénué de tout effet facile ou même de pathos, mais qui relève d'un soupçon de film policier, de film noir, hein, avec cette histoire de perçage de coffre. Sans toutefois juger, le réalisateur ne se montre jamais déférent envers son personnage, qu'il montre sous toutes ses facettes. Malgré sa sécheresse et la violence des rapports entre les personnages, la mise en scène sait s'approcher au plus près de ces personnages, dépeint des individus avec beaucoup d'humanité, même parmi les seconds rôles. Yacine Kniha refuse de céder à la facilité en proposant un personnage principal plutôt positif malgré tous ses travers et ses défauts. Et le réalisateur préfère s'attacher aux marges, montrer le mal-être de Mehdi, qui est toujours sans aucun jugement. Et c'est aussi ce qui fait la grande force du film, hein. À travers l'histoire de ces trois jeunes gens qui essayent de sortir d'une certaine condition, Yacine Kniha dresse un portrait d'une jeunesse qui a bien du mal à s'en sortir, qui n'arrive pas à voir l'avenir sereinement ou refuse d'entrer dans un moule. L'histoire de Mehdi est celle d'une perte de repères, du déni d'une réalité sociale et professionnelle. Histoire d'amour, drame social, de bas étage raconte aussi la solitude moderne de ceux qui n'arrivent pas à se détacher d'événements passés, qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie. En plus de la réalisation dont la sobriété en fait ressortir la sensibilité, il n'est pas inutile de saluer le jeu des acteurs, hein, dont celui de Soufiane Guerab qui joue Mehdi, ou encore de Souhela Yacoub dans le rôle de Sarah. Hein, chacun d'eux apporte une touche d'authenticité nécessaire à cette histoire.
Approche. T'as peur ?
Non, j'ai froid. Il n'y a pas assez là.
Mais t'as fait quoi avec ton oseille ?
J'ai acheté une baraque à la daronne au bled pour sa retraite.
Tu vas revenir ?
On a déjà parlé, j'ai pas envie d'y chez ta mère.
Tu vas patcher dessus cette fois, toi ?
Tu vois quelqu'un en ce moment ?
Tu saurais, non ? Toujours là, dans ta caisse, à me surveiller.
Un dernier plan, ça t'intéresse pas ?
Tu vois pas que c'est mort, là ?
Moi, je suis tout seul, Béziers.
Y'a rien qui me retient ici.
Faites plus de bruit.
Je suis sérieux, faut plus qu'on se voit ensemble, c'est fini, ça.
Viens là, je te parle, viens là.
Laisse mon travail entier, dégage.
Toujours le 4 août, mais beaucoup moins enthousiasmant ce qui me concerne, Fendas. Fente en français, une coproduction franco-brésilienne de 2019 réalisée par Carlos Segundo. Katharina est chercheuse en physique quantique. Elle étudie les espaces sonores cachés dans les variations de lumière. En s'immergeant dans les images qu'elle distord, elle découvre une nouvelle forme de spectre sonore qui semble ouvrir un accès vers une autre temporalité. Résumé ainsi, le film s'avère mystérieux, prometteur d'une mise en scène aux expérimentations visuelles intéressantes. Mais non. Mis à part quelques rares passages à l'image et au son distordu, Carlos Segundo ne prend pas beaucoup de risques avec son histoire et signe un drame assez banal, soit une femme seule qui s'est éloignée de son compagnon et pour des raisons professionnelles et personnelles. Le film s'accumule les poncifs de mise en scène inhérents à ce genre de production, c'est-à-dire des plans fixes, des tunnels de dialogue et de l'errance. L'errance, la mise en scène contemplative, c'est bien aussi, mais encore faut-il avoir quelque chose à raconter. Le problème de Carlos Segundo est qu'il ne fait rien de son sujet initial. Il ne fait que se contenter de suivre une femme seule dans une ville qui lui est étrangère. Plusieurs passages créent d'ailleurs cette sensation de déjà-vu, tant dans leur fond que dans leur forme. Peut-être que le film accuse un évident manque de moyens qui l'empêche de pouvoir traiter un sujet qui ne fait qu'effleurer. C'est dommage parce que Carlos Segundo manque l'occasion de pouvoir mêler l'intime et le cosmos, l'infiniment petit et l'infiniment grand, malgré quelques tentatives de plans trop rares. De bas étage, Fenda se sort dans les salles le 4 août. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute du cinéma. Nous allons maintenant évoquer une sortie du 11 août, un film de Fahed Bentoumi, Rouge. Fahed Bentoumi, avant de se lancer dans la réalisation, a joué dans des séries télévisées comme Homicide ou Munch. Il fait ses premiers pas en tant que cinéaste en 2011 avec un court-métrage, Brûleur. Et après un autre court et un premier long-métrage, il revient avec un film très ancré dans le social, Rouge, avec Sami Bouadjila et surtout Zitan Roth dans le rôle d'une infirmière très impliquée dans son travail. Après avoir été rendu responsable de la mort d'une patiente âgée dans l'hôpital où elle travaillait, Nour est engagée comme infirmière dans l'usine de son père. Et au fur et à mesure, elle va découvrir des irrégularités sur le plan de la santé des employés. Quand elle en parle à son père, délégué syndical et pivot de l'usine depuis 30 ans, celui-ci fait la sourde oreille. Nour va alors devoir choisir entre sa famille et son éthique. Rouge commence comme un film social pour vite devenir un thriller écologique. La mise en scène est dynamique, immersive avec une caméra très mobile sans pour autant que l'image soit illisible, que le montage soit archi découpé avec une caméra qui virevolte dans tous les sens. En fait, on suit Zitan Roth à la trace. Elle est de presque tous les plans. Fahed Bentoumi décrit avec précision les mécanismes de dissimulation pratiqués par les patrons d'une usine polluante. Comme Nour, le spectateur découvre petit à petit les différentes irrégularités et avec elles, il en vient à se demander quoi faire. Fahed Bentoumi signe un film engagé qui ne s'embourbe pas dans la dénonciation stupide. Il met bien en évidence les contradictions des enjeux écologiques, les incompatibilités entre vie économique et enjeux écologiques, le rôle nécessaire d'une presse engagée, la stupidité de certains groupes militants. Sous le thriller haletant, Rouge raconte aussi l'histoire d'une cassure et d'une réconciliation, la bonne cohésion sociale. Les intérêts privés doivent-ils prendre le pas sur les intérêts communs ? Fahed Bentoumi reprend ici un des thèmes de son précédent long métrage, la réconciliation familiale. Si on peut reprocher au final de Rouge de tomber dans un certain côté mélodramatique, le film prend aussi un autre sens, c'est au père de réparer les erreurs du passé et de préparer l'avenir pour leurs enfants. En cela, malgré une forme plus moderne et beaucoup moins classique, quelque part, Fahed Bentoumi rejoint une thématique chère à Clint Eastwood et présente dans ses derniers films. Surtout, que va-t-on laisser aux générations futures et que retiendra l'histoire de nos actes, dit le film. Cependant, dommage que la musique soit plutôt envahissante, hein, il y en a beaucoup, et que le film se termine sur cette petite note mélodramatique et que le réalisateur se sente obligé de conclure sur des images réelles de la pollution évoquée dans l'intrigue, comme si celle-ci ne suffisait, comme si son film, sa propre histoire, ne suffisait pas à convaincre. Était-il vraiment utile d'ancrer le film avec la réalité de ces images, documentaires comme si le réalisateur n'avait pas confiance en ses propres images à lui, en sa propre histoire. Pourtant, le film est plutôt dynamique, convaincant et assez prenant. Donc, Rouge sort le 11 août dans les salles. Dans un genre assez différent, le 18 août est marqué par une sortie assez exceptionnelle, celle de L'échiquier du vent, un film iranien de Mohammad Reza Aslani, qui a une histoire bien singulière, hein. Il a été réalisé en 1976. Il est projeté au Festival du film de Téhéran en novembre de la même année, avant d'être banni par le régime. Le gouvernement ordonne alors de détruire négatifs et copies du film. Seulement des copies VHS circulaient sous le manteau parmi les réalisateurs, les amateurs. Et les négatifs ont récemment été retrouvés chez un antiquaire. Voilà. Le film, on le croyait complètement perdu. Et c'est chez un antiquaire que les héritiers du réalisateur découvrent les négatifs du film. Et donc, il a pu être restauré pour être de nouveau exploité en salle.
خوش نیست که قضیه‌مون بیفته عقب.
بذارین یه چند روزی از چله مادر خدا بیامرزم بگذره.
اگه از دست میشد میذاشتی خاک مادرت خوش بشه، اون بعدش میرفت به جفت گیری.
حاجم
لاسده با این ضعیفه افلیجه بزن، اما فکر زیادی به کلت نزنه.
دوست بیشرف، اگه مادر مرحوممو جادو نکرده بودین اینقدر لوستون نمیکرد.
هیچی مثل مال خریده آبرو نمیاره. گیر حاجی امو هم.
نیست. سرکار بفرمایین. کی حاجی گم شده؟ ارث خوبی بهتون رسیده.
آقا رو که کشتی.
L'échiquier du vent raconte qu'après la mort de la propriétaire d'une grande maison bourgeoise, ses héritiers, parmi lesquels son mari et une veuve, se disputent l'héritage. Filmé quasiment en huis clos dans cette grande maison, L'échiquier du vent est à mi-chemin entre le drame et le thriller horrifique. Il n'est pas étonnant, quand on le voit, que le gouvernement iranien de l'époque ait voulu le censurer. Les femmes ont un rôle important, la place de l'homme est remise en question, sans oublier un passage met en scène une relation saphique. Évidemment, c'est le pouvoir de l'époque qui est ici remis en question. Mohammad Reza Aslani n'y va pas avec le dos de la cuillère, il présente des personnages peu sympathiques qui intriguent les uns contre les autres. Dans ces conflits d'intérêts qui excluent les femmes, il faut savoir prendre des décisions radicales. Le film s'insinue alors sur les sombres terres du thriller criminel, puis fantastique. Clouseau n'est pas loin et l'intrigue convoque également Chabrol dans sa critique d'une certaine bourgeoisie. Quand certains passages, par leur direction de la photographie, ne sont pas sans évoquer Mario Bava. Le film est lent, contemplatif, retranscrivant une atmosphère sombre, lourde, mystérieuse, avec une menace insidieuse qui reste en hors-champ, qui va jusqu'à une résolution qui peut paraître un petit peu confuse. Film sur la situation des femmes en Iran, L'échiquier du vent est très engagé, s'avère être sans concession, c'est un joyau noir, une œuvre à découvrir absolument. L'échiquier du vent sort le 18 août dans les salles. Autre œuvre à la lisière du fantastique qui met les femmes en avant, Les sorcières d'Aquelarre, une coproduction entre l'Espagne, la France et l'Argentine réalisée par Pablo Agüero. Au début du XVIIe siècle, au Pays Basque, 6 jeunes femmes sont arrêtées, accusées d'avoir participé à un sabbat. À l'évidence, elles sont surtout coupables d'être des femmes, aux yeux d'un ersatz de tribunal de tartuffes libidineux. Pablo Agüero opte pour une mise en scène plutôt élégante pour mettre en évidence la vulgarité et l'obscénité de ces juges, de ces hypocrites qui détestent les femmes, réfutent leur désir au nom d'une bienséance ou d'une idéologie dépassée. La direction de la photographie se fait chaude quand il s'agit d'évoquer les pulsions, les désirs, la concupiscence, et plus froide pour désigner une certaine forme d'innocence, la pureté, une certaine naïveté. C'est Les sorcières d'Aquelarre met en accusation une certaine société patriarcale. Le film parle aussi de corruption, de contamination. Au fur et à mesure que le film avance, la photographie devient constamment chaude, comme si tout ce que touchaient ces inquisiteurs de pacotille était corrompu. Seulement, cette dépravation va finalement aboutir à un jeu du chat et de la souris où le chasseur va se retrouver pris à son propre piège. Avec ce film, Pablo Agüero signe une ode à la liberté, donne un coup de griffe à la religion qui rejette toujours la faute sur les femmes. Et ça a beau être un film historique, c'est un film qui s'avère toujours plus d'actualité de nos jours. Les sorcières d'Aquelarre sort en salle le 25 août. We'll be right back. toujours le 25 août, mais dans un genre complètement différent, même si on continue d'évoquer des jeunes filles, de parler de devenir, de dépassement et d'accomplissement de soi. Petite danseuse est un documentaire signé Anne-Claire Dolivet sur le quotidien, les entraînements des danseuses étoiles. La réalisatrice suit plusieurs petites filles tout en restant en retrait, sans aucune voix off qui ne vient parasiter l'image. Donc on est tout à loisir de se faire sur sa propre idée sur la façon dont ces jeunes filles s'engagent dans cette carrière de danseuse étoile. Car quelque part, on se demande si elles ne font pas l'impasse sur leur enfance. La réalisatrice Anne-Claire Dolivet ne juge jamais, ne porte jamais de jugement sur les individus qu'elle filme. Et il y a quelque chose de très humain qui se dégage de ce documentaire, de ces différents entraînements. Elle montre tant les jeunes filles à l'entraînement, parfois avec des images qui peuvent se révéler assez dures, hein, parce que ces entraînements sont quand même assez difficiles. Parfois, il faut aller au-delà de ses limites. Et elle montre aussi ces petites filles, aussi dans leur quotidien chez elles. Et quelque part, on se demande si elles sont encore des petites filles, dans le sens où le fait de s'engager dans une carrière de danseuse étoile, cela ne revient-il pas à faire l'impasse sur le fait d'être un enfant, voilà. Le film propose de très belles images, notamment de très belles images où on voit ces petites filles danser, notamment à un moment, il y a une séquence où on les voit danser dans la forêt au milieu d'arbres, mais aussi jusqu'à l'accomplissement de leur entraînement où elles doivent se produire en public dans un concours où elles seront récompensées. Petite danseuse, c'est un documentaire sur l'abnégation, hein, l'abnégation sur le fait de faire l'impasse sur le fait sur son enfance pour devenir des danseuses étoiles. Donc de Petite danseuse sort aussi le 25 août. Vous êtes toujours à l'écoute du cinéma, mais c'est terminé pour les sorties salles. Je vais vous parler d'une sortie Blu-ray DVD. Une sortie Blu-ray DVD de chez nos amis les Extra Lucide Films. Et cette fois, il s'agit d'un film d'animation. Un film d'animation qui vient de Hongrie, réalisé en 1980 par Georgi Kovasznai.
Mit tudsz a megtermékenyítésről? Mit tudsz a két nem közötti különbségről?
Oxigénre szüksége van, továbbá nitrogénre, meg némi hidrogénre, s nekem egy emberi lényre.
Hát persze, a Zsolt. Fényképről már ismerem. A vőlegény, a Klári vőlegénye, Mohai Zsolt.
Nekem ma délután nem áll szándékomban elmenni arra az átkozott esküvőre.
Kismennyasszonyt keresi.
Zsolt is mindjárt megérkezik, ő is nagyon szeretné, hogy jönni.
Mi ez, Dili Bogyó?
Nem.
Nem vagy.
Mondja nekem folyton, hogy doktornő. Nem is tudja, hogy ez mennyire hat rá. Zsolt, nem akarna mégis elmenni az esküvőjére?
Emelem karom, a szívem teli van. Ez a perc, ez a nap, csupa boldogság. A lány ebelő, a fiú szerető, anya könyvvezető, nosz a házasság.
Igyunk!
Bezeg gyöngyözik a pesgő.
Igyunk!
Hiszen örül a világ.
Igyunk!
Mert a hangulatunk pesgő.
Georgi Kovasznai était un artiste peintre et un réalisateur qui signe là malheureusement son seul long métrage. Il avait un autre long métrage en projet, mais il n'a pas pu le terminer. Il est décédé avant de pouvoir terminer ce projet. Et donc, le film s'appelle Bubble Bath, dans une très belle édition. Hein, les éditions Extra Lucide d'Extra Lucide Films sont très élégantes. Hein. Et Bubble Bath raconte l'histoire de Zolt, qui est sur le chemin de son mariage. Mais il s'arrête chez une amie commune à sa future épouse et à lui. Mais en fait, une amie de qui il est amoureux. Et ses sentiments sont peut-être partagés entre cette jeune femme et lui. Mais Zolt a bien du mal à vouloir s'engager dans cette vie avec cette jeune femme. Et donc, il va, le film est quasiment à huis clos dans, dans l'appartement de cette jeune infirmière dont Zolt est amoureux. Et le film va partir un peu dans tous les sens. Alors, c'est un peu une sorte de comédie musicale, de drame social. C'est un film qui parle d'existentialisme, qui parle de solitude moderne et qui, du coup, parle le fait qu'il utilise l'animation. Il mélange un peu des prises de vue réelles et puis des séquences animées. Et du coup, il s'autorise, Giorgi Kovacsna, il s'autorise un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il déforme les perspectives, il déforme ses personnages. Et, c'est assez surréaliste, c'est assez expérimental. Et du coup, ça va très bien avec le fond du film qui est sur l'interrogation de ce personnage, Zolt, s'il va se marier ou pas. Il y a aussi quelque part dans ces interrogations la peur de parce que Zolt a 40 ans, hein, c'est un décorateur de vitrine, et donc là c'est un tournant de sa vie, et il se demande s'il a peur, en fait il a peur de tomber dans une vie conformiste et ennuyeuse, et de passer à côté de quelque chose, notamment de cet amour de cette jeune infirmière qu'il va visiter avant d'aller à son mariage. Bubblebath est une chouette découverte, un film d'animation très dynamique, avec une musique qui fait très années 70. Hein. Le film est réalisé tout début des années 80, donc on a encore le son très années 70 des différentes chansons qu'on entend dans le film. Et donc c'est un film que je recommande chaudement, qui est sorti chez nos amis de Extra Lucide Film en combo DVD Blu-ray. C'était Thomas Roland et vous étiez à l'écoute du cinéma. Vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante loupgaroupicard@gmail.com, loupgaroupicard en un seul mot. Je vous souhaite de bonnes séances de cinéma en ce mois d'août et je vous dis à la rentrée. À la prochaine, salut à tous.